Donc, et puis, bah, nous, bah, tu sais, c'est Radio Pulse, et à Radio Pulse, on aime le rock and roll. Et...
les trucs qui bougent.
Ouais, on aime les trucs qui bougent, mais on bouge, nous aussi, parce que du coup, on a fait une interview tout à l'heure.
C'est
en
sport,
direct.
Hein. Jeudi, c'est sportif.
Ah, et, là...
et puis, bah, là, on va faire aussi une interview en direct de Sylvain Legros. Alors, Sylvain Legros, qui est Sylvain Legros? Alors, Sylvain Legros, c'est le réalisateur de Légende de Normandie, un spectacle qui aura lieu à la Halle, qui est prévu à la Halle au Blé en 2021. Certains d'entre vous à Alençonnet, vous devez, certains le connaissent parce que c'est une figure à Alençonnaise justement. Sylvain Legros, le pauvre, il aura changé de prénom.
Adrien, Alain,
Aurélien, Sylvain Legros. Et voilà, il a fait ses débuts à Radio Pulse. Et
allô Sylvain, nous entends-tu?
Oui, tout à fait, je vous entends, bonjour.
Voilà, on se posait la question de savoir si tu étais en ligne ou pas.
Oui, je vous entends, tout de suite.
Bonjour Sylvain, merci de répondre au micro de Radio Pulse. On devait t'appeler un petit peu plus tôt et puis nous étions en direct tout à l'heure à Luciole. Nous sommes arrivés, nous avons pris le direct dans le bocal. Locaux que tu connais un petit peu, parce que là, je pense que tu connais un petit peu. Donc, alors on a parlé de Légende de Normandie. En fait, on a souhaité t'avoir au micro aujourd'hui, car mardi, on a parlé d'un événement qui va se passer à la Halle au Blé, qui est nommé Légende de Normandie et dont tu es le réalisateur. Donc, ça nous intéressait, et le fait que tu sois aussi passé par Radio Pulse, We Aircraft, M6.
Il en fait des choses, le gars.
Ah oui,
c'est un vrai couteau suisse.
Et là, il est dans le petit journal, quoi.
Mais... on va pas pouvoir parler de tout, mais effectivement, Radio Pulse. Alors, je connais moins ces locaux-là parce que après, je suis parti d'Alençon, mais les tout premiers locaux, je crois que je dois avoir 2 ou 3 déménagements à mon actif pour Radio Pulse. Donc, du coup, j'ai bien connu un peu tous ces débuts et à ce que je vois, ça a l'air de rouler. Donc, c'est chouette que ça continue.
Alors, est-ce que tu peux nous parler? Enfin, alors moi, j'ai déjà vu un peu ton travail. Je suis flérienne, donc je sais que tu as fait des mappings à Flers, notamment aux périodes de Noël. En 2018, il y a eu l'histoire des alchimistes, qui est une collaboration avec François Morel. Qu'est-ce que tu en ressors de cette collaboration?
Ah bah alors ça a été extrêmement rapide, j'ai pas vraiment eu le temps de savourer. Pour tout vous dire, on était en train de travailler sur le projet avec la ville de Flers, et puis on avait besoin d'une voix off, et puis les gens de la ville me disaient on peut peut-être récupérer le numéro de François Morel pour pouvoir lui proposer, on n'a rien à perdre, etc. Donc en fait on se dit allons-y. Et il s'est avéré qu'il a dit oui directement. Il a dit oui, et puis il a dit qu'il le ferait aussi à titre gracieux, qu'il n'avait pas besoin de faire payer la ville de Flers pour étant du coin. Il est de Saint-Georges-des-Groseilles.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et alors du coup, on s'est rencontrés sur Paris dans un studio. Le temps de faire la voix, en fait, et comme c'est un grand professionnel, ça a été extrêmement rapide. Je crois qu'en moins d'une demi-heure, tout était dans la boîte, donc on n'a vraiment pas eu le temps de beaucoup discuter, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très très pro et très sympathique, vraiment, qui s'intéresse au travail des autres, et je sais pas si, je crois qu'il a vu, il a fini par le voir, le spectacle, mais j'ai rediscuté après avec lui, et je crois qu'il l'a vu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu plus d'échanges. Voilà, mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir parce que c'est toujours intéressant sur notre travail d'avoir ce genre de comédien qui vient vraiment sublimer un peu, donner la touche finale au projet, quoi.
Oui,
voilà, sur François Morel. Et du coup, c'est vrai que là, ça sera la 4e année cette année qu'on travaille avec la ville de Flers. Et ça se passe toujours très bien. On est très content de revenir tous les ans. Et là, on est actuellement en train de travailler sur la nouvelle édition pour le mois de décembre. Donc, ça va arriver d'ici 5 semaines. 5 semaines, on sera sur place pour le nouveau spectacle de cette année.
C'est quoi la thématique? Promis, je garde le secret.
C'est bien, on est à la radio. Ça s'appelle Flers Magic Circus, et c'est une thématique autour du cirque cette année. Parce que je crois que du coup la ville de Flers a prévu d'installer un cirque aussi en plus sur la à côté sur la place. D'accord. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire une thématique commune, sauf que nous on est parti sur quelque chose d'un peu plus irréel et magique que ce qui se fait dans le cirque actuellement. Donc voilà, ça va être très festif cette année à Flers.
Ce sera moins mécanique que ça a pu l'être les autres fois, et parce que c'est quand même la première fois où j'ai vu l'église Saint-Germain prendre feu et ça m'a fait mais quand j'ai vu le truc, ça m'a pris au trip et tout, je fais, oh non.
C'est pas impossible qu'ils reprennent feu cette année, mais en tout cas ce sera, oui, ça va être assez psychédélique. L'année dernière on avait fait un truc qui s'appelait la mécanique de Noël avec des petits lutins qui organisaient Noël, mais en parcourant les métiers d'antan de la ville de Flers. Donc il y avait l'extraction de métaux, de la
couture,
des tissus, etc. Il y avait tout ça, et ça a donné un joyeux bordel avec des lutins qui étaient plus proches des lapins crétins que des lutins réels du Père Noël. Ça avait bien cartonné l'année dernière.
Il y avait beaucoup de trappes et d'engrenages aussi, c'était assez mécanique.
Ouais, c'était la première année. Ouais, on travaillait sur les. On travaillait. On avait évoqué le passé des industries de tissus de Flers. Donc on avait une espèce de grande tisserie sur ce là-dessus. Ouais. Et donc du coup le côté un peu décalé, un peu drôle. Finalement, c'est un peu ce qui fonctionne bien à Flers là, de plus en plus. Et donc on va partir un peu dans ce style-là pour garder un peu cet esprit de fête et un peu moins. Les alchimistes c'était très bien, mais finalement c'est peut-être plus grand public de travailler sur des petits personnages un peu plus dédiés aux enfants et un peu plus festifs. Mais je regrette, en tout cas les alchimistes c'était sans doute l'un de mes plus beaux spectacles et je regarde un très bon souvenir. Ouais.
En tout cas moi j'ai adoré en tant que spectatrice.
Merci.
Nous on t'appelle aujourd'hui. Oui je te tutoie. Hein,
Ouais, bah vas-y, on y va.
On t'appelle aujourd'hui pour le mapping que tu as déjà réalisé, mais qui va.
C'est toujours en cours, mais ça se termine. Voilà, on est en finalisation de ce projet. Donc c'est les légendes de Normandie, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est autour des légendes de Normandie.
Ouais.
Je voulais savoir. J'ai vu que c'était des légendes de Normandie qui étaient non écrites. C'était les légendes qui sont un peu transmises de famille en famille, de campagne en campagne, de village.
Ouais.
Et
c'est exactement ça en fait. On a appelé ça un peu une littérature oubliée, parce qu'en fait à l'époque c'était pas écrit du tout, c'était des histoires, en fait un peu comme des blagues aujourd'hui, les gens se passent les uns les autres, et en fait à une époque au Moyen Âge où il y avait pas de télé, pas de radio, rien du tout, il y avait des conteurs qui passaient de village en village, et on appelait ça les veillées. En fait tout le monde se mettait autour de la cheminée et écoutait le conteur raconter ses histoires. Donc des conteurs il y en avait plein. Et surtout, il s'est passé les histoires. Et ce qui est drôle, c'est qu'il les améliorait ou il les changeait en fonction des endroits où ils pouvaient être. Et on s'est retrouvé avec des mêmes légendes, des mêmes contes qui ont été racontés à plusieurs endroits, mais systématiquement adaptés et différentes en fait. Donc c'est un florilège d'histoires et de contes. Et la personne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Jean-Patrick Beaufreton, qui est conteur professionnel du côté de Évreux, lui, il en avait répertorié déjà plus de 1200, en fait, ce qui était énorme. Il y avait vraiment beaucoup trop de matière, et il a fallu faire tout un travail de recherche là-dessus et de simplification, en fait, et de réécriture, parce que c'est un peu comme les contes de Grimm ou les contes de Perrault, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement violent, en fait. Et donc, du coup, tout ça... Disney fait la même chose en vrai, hein. Voilà, quand il raconte des histoires, évidemment il se base sur les contes de Grimm. Il y a toute la partie un peu dégueulasse qui est supprimée. On a fait un peu ce travail aussi, voilà, on a parce que c'est quand même un spectacle grand public. Oui. Donc effectivement tous les sorts un peu funestes des personnages ont été pas supprimés, mais évoqués plutôt que montrés, en fait. Voilà, c'est comme on est dans un spectacle d'images, effectivement on peut pas tout montrer. Je sais pas, nous, on travaille aussi, on a travaillé avec la légende de Marie Anson, je sais pas si vous la connaissez, à Alençon.
Non.
Cette légende, c'est une légende qui se passe à Alençon, Marie Anson. chanson, c'est une châtelaine hein, qui est dans le château. Son mari chevalier est parti à la guerre et il a eu une info.
Il a une fake news entre guillemets
comme quoi sa femme le trompait. Ouais. Il est rentré de la guerre en mode vénère et puis il a attaché Marie-Anson par les cheveux à l'arrière de son cheval et il l'a traîné dans tout Alençon. Donc c'est ça, par exemple, on peut pas la raconter telle quelle.
C'est ouais, vrai. Non, c'est...
Oui.
Et est-ce que la forme de la Halo Blé apporte des contraintes particulières pour faire ce genre de mapping ou pas?
Alors bah en fait complètement. Complètement. Et en fait, avant même d'avoir commencé à écrire ce spectacle, c'est par là qu'on a commencé, en fait. C'est par l'aspect technique. La Halo Blé, c'est un bâtiment vraiment particulier. Voilà. Et dès le départ, on voulait, de toute façon, marquer le coup et que ce soit, qu'on utilise les 360 degrés. Voilà. On voulait pas faire 180 ou 270 ou presque le tout tour. On nous l'aurait dit en permanence, vous auriez peut-être pu faire le tour. Donc, on voulait faire la totalité. À partir de là, il a fallu, combattre un peu toutes ces contraintes de placement du matériel, placement des vidéoprojecteurs et le son aussi qui est un gros point faible de ce bâtiment, c'est qu'il y a une énorme
réverbération.
Et donc du coup il a fallu travailler sur des nouveaux dispositifs qu'on a développé pour l'occasion en fait, hein, qu'on a construit pour l'occasion, qu'on a commencé à tester la semaine dernière lors de la présentation. C'est pas encore totalement terminé, mais ça donne quelques résultats plutôt intéressants. Voilà, c'est des grands canons qui sont longs de 3 ou 4 mètres, en fait, dans lesquels sont insérés les enceintes de Lineray, qui sont planquées dans les fenêtres à l'étage et orientées vraiment direct sur le public, et faire en sorte que le son arrive d'abord sur le public pour bien comprendre la voix avant de repartir et taper partout. Et d'ailleurs, il repartira pas, parce que de toute façon, avec des moquettes et des tissus et des grands drapés, normalement, on capture le son. Donc, normalement, le son ne va plus rebondir comme il fait actuellement dans toutes les façades et dans la coupole. C'est vrai que c'est assez infernal. C'est pire qu'une église, ce bâtiment.
Et je me posais une question, du coup, le mapping se déroulera sur le 360 degrés. Est-ce que le public aura un siège pivotant sur 360 degrés?
Alors, on y avait pensé, mais on n'est pas allé au bout de cette idée, déjà parce que ça allait coûter cher, et puis surtout en fait parce que ça aurait pas servi le public d'avoir plusieurs axes de d'action en fait. On s'est dit qu'on allait concentrer l'action vers un seul et même point. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématiquement au centre, mais ce qui veut dire que il y a un sens de spectacle. Les gens sont dans le même sens. Les images apparaissent en majeure partie au centre. Après, elles peuvent se propager sur les côtés et à l'arrière. Il n'est pas interdit de regarder derrière, mais en tout cas, normalement, tout le monde regarde dans la même direction. S'il y a un personnage, là on a un dragon par exemple. Le dragon, il va arriver dans le public, il va passer autour, il va tourner autour. Normalement, tout le monde regarde au même sens. Donc c'est pas déambulatoire, c'est pas comme l'atelier des lumières à Paris, tu es pas en train de te balader un peu partout pour regarder. Non, t'es assis, tout le monde est assis dans le même sens et tout le monde regarde la même chose et suit la même histoire. Et de toute façon, là, avec le système de son qu'on a mis en place, qui est spatialisé en fait, qui est en 5 points. Normalement, si le dragon ou tout autre personnage passe sur le côté gauche, le son va arriver du côté gauche. Donc, de toute façon, ça va forcément donner envie de tourner la tête, de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, non, pas de siège pivotant, pas de truc sur vérin, pas de 4D, pas de genre de choses.
Personne ne vient avec sa chaise de bureau, il y aura.
Bah, après, ils peuvent, hein, ça ne me dérange pas, moi.
Non, non, c'est une blague.
non, on peut pas, en fait, on est censé. Non,
on est censé bouger.
Des lois, enfin, des choses comme ça, on peut pas. Faut que toutes les rangées de sièges soient attachées, on peut pas avoir des sièges qu'on est attachés. Et de toute façon, ça servirait pas à grand chose parce que, du coup, normalement, il n'y a pas de. Ça se joue au niveau du coup et on va pas forcer à aller chercher des images complètement à l'arrière, sinon on va monter un partenariat avec des ostéopathes et puis on va s'en sortir comme ça.
A priori, il y a une bonne école de kiné à Alençon.
Oui, c'est ça.
On va faire un partenariat.
Ils vont avoir une recrudescence de clients qui sont passés au spectacle et qui se sont fait un torticolis, un truc comme ça.
Tout à l'heure, tu disais que vous aviez été obligé de faire un choix parmi 1200 comptes qui ont été recensés. Comment est-ce que vous avez axé votre choix? Enfin, comment est-ce que vous avez réussi à en ressortir uniquement 6 sur les 1200?
Ouais. Alors, il y a sur deux critères. Le premier, c'était on avait la volonté de ne pas faire un spectacle uniquement pour Alençon et les Alençonnais, en fait. On voulait faire un spectacle qui aille chercher beaucoup plus loin, et ça s'appelle Légende de Normandie. Donc, il fallait que ça se passe dans toute la Normandie. Donc, le premier critère, c'est un critère géographique. On a sélectionné des contes qui se passaient aux quatre coins de la Normandie. Et le second, il fallait que les contes soient convertibles visuels, en fait. C'est bizarre comme phrase, mais disons qu'il faut, il fallait qu'il y ait de l'action et du déplacement et des décors et des choses comme ça. Par exemple, il y avait des contes où il y avait un petit diable qui vient tourmenter un homme et sa femme. Tout se passe dans la même maison. Ça, par exemple, c'était pas possible. On n'allait pas raconter. On va pas partir 3-4 minutes dans la même baraque, dans le même décor. Donc, il fallait vraiment des choses qui se passent. Voilà, comme Marie Anson, effectivement, son mari s'en va sur le champ de bataille. Donc, on part sur le champ de bataille avec lui. On traverse tout le château d'Alençon. C'est vraiment une variété de décors et de déplacements, parce qu'il faut quand même tenir 45 minutes et que notre but, c'est pas que les gens s'ennuient pendant le spectacle. Voilà, donc c'est ça qui nous a fait faire le choix. Et surtout, voilà, des choses où il se passe des choses intéressantes à raconter. Ouais.
Et est-ce que le spectacle que vous avez créé est susceptible d'être diffusé ailleurs qu'à Alençon? Alors après, peut-être avec dans des endroits qui ont la même configuration que la Leblay, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez que le spectacle pourrait être transposable dans d'autres endroits en Normandie pour faire voyager justement les légendes de Normandie?
Et là, c'était même le projet de départ, en fait, de se dire on allait créer un spectacle, qu'on allait rôder un peu à Alençon et déplacer dans d'autres rotondes. Et puis, au bout de 2 mois de recherche, on s'est rendu compte que la Loblé était un bâtiment unique et qui n'existait pas du tout dans d'autres lieux. Des rotondes comme ça, il y en a une à Paris, c'est la Bourse du Commerce, mais qui n'est pas du tout dans la même configuration et qui est avec des murs peints et avec un étage, etc. Mais c'est pas du tout la même config. Et d'autres rotondes n'étaient pas du tout de la même façon, la même pierre blanche comme ça. Donc, en réalité, on s'est rendu compte que si on allait créer ce spectacle, ce serait uniquement pour la Loblay. Et finalement, c'est pas plus mal parce que c'est quand même un bâtiment qui est assez exceptionnel et qui mérite de rayonner davantage. Voilà, qui mérite ce genre de spectacle. Donc, non, on pourra difficilement pas. Non, on pourra pas le transposer. On s'est dit peut-être même dans des grands espaces comme des parcs expo et mettre des grands tissus. Des grands cyclos, mais ça casse toute la magie du lieu, en fait. Ce qui est intéressant là, c'est de travailler avec l'architecture du lieu, de travailler vraiment en mapping. C'est pour ça qu'on l'a nommé en toute modestie le premier mapping architectural de Normandie. En réalité, c'est vrai, puisqu'en fait il y a des projections 360 à Rouen, au panorama XXL, je crois, il y en a à Romanche sur la Seconde Guerre mondiale, mais ce sont des écrans, et nous, ce n'est pas des écrans, c'est de la pierre, c'est vraiment le bâtiment en tant que tel. Donc il est complètement acteur du spectacle, on ne peut pas l'enlever. Si on enlève l'objet, il n'y a plus de spectacle.
Alors, j'ai noté que le spectacle avait été prévu du 29 janvier au 28 février 2021, donc sur un mois complet. Combien avez-vous prévu de représentations? Enfin, pas de représentations, mais de...
Oui, c'est ça. Combien de diffusions?
Oui, voilà, pardon.
Alors, en fait, on pour l'instant, on a ouvert sur 10 jours. Voilà, il y a 10 jours, c'est... vendredi et samedi, sur les 5 week-ends, parce qu'en fait, le premier week-end, c'est le 29 janvier, et après, il reste 4 week-ends en février. Donc là, on a 2 diffusions par jour sur 5 week-ends, ce qui nous fait pour l'instant 20 représentations. Et ça, c'est l'offre de départ. Maintenant, en fonction de l'évolution de la billetterie, etc., on a la main pour éventuellement proposer des nouvelles dates. Et d'ailleurs, on aimerait, pourquoi pas, proposer des dates dédiées aux étudiants d'Alençon, par exemple le jeudi soir, qui n'est pas encore ouvert. ou à des groupes, des choses comme ça, des CE, tout ça. Donc on a encore la possibilité de proposer des nouvelles représentations, des nouvelles dates. Voilà. Donc là notre but pour l'instant, c'est plutôt déjà de remplir celles qui ont été définies. Mmh. Et puis après même là, dès maintenant, si demain on vient nous voir et qu'on nous dit bon, j'ai 150 personnes ou 150 étudiants qui veulent me voir, hop, on leur dédie une diffusion, il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire.
Il y a besoin qu'on... Enfin, ça, c'est mon ignorance qui parle. Il y a besoin qu'il fasse nuit pour que le spectacle ait lieu.
Il y a des gens qui, pardon,
Est-ce qu'il y a besoin qu'il fasse nuit, ou est-ce que ça pourra se faire en après-midi ou
Ah bah non, c'est toute la problématique de ce bâtiment. La coupole, elle est à moins de trouver un hélicoptère et de recouvrir avec une bâche noire la coupole. Effectivement, on est
bloqué. Je l'ai annoncé, bloqués, c'est mon ignorance.
Ouais, d'où les deux représentations. Elles sont à 19h et 20h30. Une avant de manger, une après de manger, éventuellement. Et ouais, non. En fait, si jamais, pour une raison ou une autre, on se retrouve à ne pas pouvoir jouer en février, en fait, il faudrait attendre octobre ou novembre, en fait, pour pouvoir... on n'en est pas là. Hein. Nous, franchement, on espère quand même pouvoir jouer malgré le Covid, parce qu'en fait, on a ouvert là sur les salles avec une jauge, une demi-jauge. Pour l'instant, on ne remplit que les salles à moitié.
Ouais,
et si jamais il faut encore réduire, on pourra rajouter des dates et répartir les gens à différents horaires. Donc en fait, on a quand même pas mal d'outils et de munitions pour se parer contre le Covid, parce qu'on a quand même vraiment très envie que ça joue en février. Quoi qu'il arrive, en plus il y a pas grand chose en février, c'est vraiment une période assez creuse, donc on est on va tout faire pour que ça déroule en février, quoi qu'il arrive.
Normalement là, bon, ça, si ça évolue, enfin après bon, ça va évoluer, j'espère, en mieux, mais a priori là, pour l'instant, vous avez prévu une jauge de combien
ce que je bah alors actuellement on est à 200 par diffusion.
D'accord.
Mais on peut monter jusqu'à 350-400 a priori.
D'accord.
Après, non, on verra de toute façon en fonction du parce que là c'est vrai que ça a ouvert, on a ouvert les réservations depuis à peine une petite semaine, donc on n'a pas assez de recul pour voir un peu. Et puis j'ai bien conscience aussi que les gens ont du mal à se projeter actuellement sur des places de concert, des places de spectacle. C'est un peu compliqué de s'engager là. Je pense que ça va bouger à partir de vraiment vraiment beaucoup. Les gens vont se réveiller à partir de fin janvier, enfin j'espère un petit peu avant, mais à partir de début janvier, un mois avant, en général c'est là où la com va son plein, et puis on fait une campagne de relance un mois avant, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Mais en tout cas, là pour l'instant, la billetterie est ouverte, c'est réservable. On a fait trois tarifs. On a fait un tarif normal, un tarif réduit pour les étudiants, chômeurs et puis les jeunes jusqu'à 18 ans, et puis un tarif pour enfants à 6 ans. Voilà. Donc là, on a essayé de toucher un peu tout le monde, quoi. Et de faire un truc un peu abordable quand même, parce que du coup, faut que ça puisse être vu par un maximum de gens, quoi.
D'accord. Là, il va être 18h45. On va bientôt rendre l'antenne. On va s'en aller voir 8 nuits à la Luciole. On va devoir clôturer l'émission. Merci beaucoup, Sylvain Legros, d'avoir répondu au micro de Radio Pulse. Et puis, on reparlera de l'événement Légende de Normandie. De toute façon, il est dans notre agenda. On en a déjà parlé. Mardi, on compte bien continuer à te soutenir, toi, la Lançonnais.
Merci beaucoup, moi et mon équipe, hein, du coup.
Oui, toi et ton équipe, bien sûr. Oui, parce que c'est tu fais ça, enfin, tu es le réalisateur, mais c'est la société ou l'association We Are Craft?
Non, c'est une société. En fait, la société We Are Craft existe depuis 6 ans. On a un panel d'offres. En fait, on fait beaucoup d'événementiels, on fait beaucoup de sonorisation. On a déjà travaillé plusieurs fois avec Radio Pulse. Hein. On a la possibilité d'organiser des festivals, choses comme ça. Et on a une partie mapping, voilà, qu'on fait depuis quasiment le début. On s'est spécialisé dans le mapping. On intervient un petit peu partout. Et pour cette création de spectacle, du coup, on a créé une nouvelle société qui s'appelle Culturecraft et qui est, elle, dédiée justement à la production de ce genre d'événements. Voilà, on a séparé un petit peu Culturecraft. Culture Craft, mais c'est la même société, c'est la même équipe. On est on fait partie de la même équipe et si tout ça est possible aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même une équipe qui envoie du lourd.
Voilà. Oui, et puis WeCraft, on a pu voir des réalisations, enfin leur boulot aussi pendant le Alençon Plage cet été.
Ouais, c'est ça. Il y a Alençon Plage aussi, ouais.
Donc, bah merci beaucoup.
Qui est sans doute la première production de WeCraft avant même les légendes en fait. Donc on continue d'avancer dans ce sens. Merci beaucoup en tout cas pour votre interview.
Merci et puis merci pour ce que vous faites pour la région.